présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Des articles dans les magazines, tout le monde aimerait avoir Monsieur Bébé pour des soirées comme celle-là.
Ça va avec la musique, de toutes petites bulles, un léger pétillement.
Nicole m'a dit que c'était
le jour commence à se lever.
Oh ma foi,
les gens épuisés commencent à partir, même ceux qui sont mouillés. Pierre lui dit, si nous partions, François lui dit, oui mais je vais d'abord dire au revoir à mon ami Tony. C'est un gentil garçon, je ne peux pas le laisser comme ça. Il va vers Tony. qui lui est resté près de la piscine. Il est très triste. Quand on lui dit, bon, eh ben, je m'en vais avec la fille. Ne sois pas triste, je reviens. Et lui dit, bien, mais moi je rentre. Au fait, comment tu vas faire pour rentrer sans voiture? Une de mes clientes me ramènera. Elle m'aime beaucoup. Mais compatit à ce qui m'arrive. François lui dit, pauvre Tony. Et lui donne un baiser sur la joue. Puis retourne voir Claire, Clara. Elle se fait appeler Clara parce que ça fait mieux en Amérique. Elle lui dit, nous rentrons. Il lui dit, oui. Et il quitte la soirée. Vous avez une voiture? Moi j'ai la mienne. Elle lui fait, oui, vous n'avez qu'à me suivre. J'habite à 50 km, ce n'est pas loin. Ils vont chacun vers la voiture. Lui va vers la sienne et entre. Elle, elle entre dans la sienne et la met en route. Et lui la suit. Il a dans la poche de la veste de son smoking mouillé un collier. Il se dit que demain il donnera au dégraisseur tous ses vêtements. Ici la voiture décapotable blanche de la fille. Il fait encore nuit, mais le jour commence un peu à pointer. Il fait doux. Il se dit ce qu'il serait mieux dans son lit. Mais il doit jouer à Monsieur Bébé. La fille semble avoir de l'argent. Et puis, s'il ne fait rien, elle risque c'est de se venger et dire que c'est un minus de rien du tout. Il suit la voiture. Enfin, elle a arrêté sa voiture devant l'entrée d'une propriété fermée par un petit mur et un petit portail peint en blanc. La propriété est seule, entourée de rochers. Lui arrête sa voiture derrière elle. Elle va à lui. Il sort de voiture et lui dit, nous sommes arrivés, venez. Il la suit. Elle va ouvrir le portail. Elle la fait rentrer. La maison est au fond d'un parc ancien. Elle est ancienne, grise, deux étages, en pierre, assez jolie, avec un balcon. Pour accéder à l'entrée, il faut monter un perron. Elle a ouvert la porte de la maison et le fait entrer. Il fait sombre dans la maison, mais on y voit assez sans éclairer. Une ambiance étrange le prend, quelque chose de fermé, de bizarre, comme si la maison s'emparer de lui. Elle lui fait monter un grand escalier de pierre avec une rampe sculptée en pierre aussi. Elle lui dit, nous allons boire un dernier verre au salon. Premier étage est sombre. Il y a des meubles entre les portes. De gros meubles. Cossus. C'est des meubles en bois massif. Elle ouvre une porte.
Entrez.
C'est un salon. Une grande pièce décorée avec beaucoup de meubles massifs du 19e. Il y a aussi une grande cheminée massive en pierre. Il y a au-dessus un tableau. Un grand tableau avec un portrait d'un homme du 19e habillé d'une veste noire. Il est vieux, cheveux et barbe blanche. Une inscription presque illisible en bas du tableau. Une espèce de formule à la place de la signature. Ce portrait fascine. Il a un côté hypnotisant, menaçant. Il voit que François le regarde et lui dit, c'est un portrait que j'ai trouvé dans le grenier. Il m'a paru tellement majestueux que je l'ai mis ici. Je crois qu'il vient de France. Et que c'est même un particulier de Lyon qu'il avait. Il n'en sait guère plus. Le papier d'authenticité est tellement usé qu'on ne voit presque rien. On peut juste lire qu'il vient de Lyon, France, et un nom illisible. Je ne connais pas l'auteur et cette famille. Je me suis renseigné, n'appartient à aucun maître connu. J'avais vu la formule, je ne sais pas ce que ça veut dire, et personne ne le sait. PMDN43. Mystère. François lui dit, il est joli, mais un peu menaçant. Moi, je ne l'aime pas tellement. Elle fait, pourtant, il a de ses yeux. Oui, on dirait qu'il vous suit. Mais c'est un truc de peintre pour faire bien, comme la Joconde. Elle fait, oui, vous avez sûrement raison. C'est un tableau pas très original. Vous voulez voir quelque chose? Il lui dit, j'ai pas très soif. Mais si, allons. Un dernier verre. Venez. Il suit Clara. Assoyez-vous. Elle le fait s'asseoir sur un canapé. Il lui demande, qu'est-ce que vous désirez boire? Il lui dit, un bourbon, mais très peu. J'ai assez bu ce soir. En réalité, il n'a presque rien bu. Il n'aime pas être ivre. Il déteste ça. Il a vu son père et sait ce que c'est qu'un homme ivre. Elle va chercher la boisson. Elle revient avec deux verres et une bouteille. Faire le service. Tenez, merci. S'assoit près de lui. Ils boivent en silence. Elle se penche vers lui et lui dit, tu sais que tu es mignon, je pourrais m'occuper de toi si tu veux. Il s'étire, se détend, je demande que ça. Elle lui sourit et donne un baiser sur la joue. Tu es tout trempé. Elle se retourne, se soulève légèrement, lui défait sa veste, lui enlève son nœud papillon. Et lui défait sa chemise. Lui passe la main sur la poitrine et lui dit, t'as une vraie peau de bébé. Met la main sur sa ceinture. Il se lève, se met en face d'elle pour qu'elle puisse descendre son pantalon. C'est ce qu'elle fait. Il descend son caleçon et lui dit, je ne bande pas, j'ai la fatigue. Elle lui fait, ça n'a pas d'importance, tu vas voir. Et elle ouvre la bouche. Puis, étourdie, elle le guide pour le mener à sa chambre. Là, elle ouvre la fermeture éclair de sa robe qui descend à terre. Elle est nue. Deux heures plus tard, ils dorment tous les deux sous les draps nus. C'est elle qui l'enlace. Elle se réveille la première, regarde l'heure sur le petit réveil qui est sur la table de nuit. Donne un petit baiser sur la tête. Elle lui dit, il faut se lever. Elle le secoue un peu, ça le réveille et lui dit, il est tard, il faut se lever. Il lui dit, mais j'ai tout mon temps. Elle lui fait, je sais, mais pas moi, j'ai à travailler. Allez, lève-toi. Il soupire et se lève, elle aussi. Une heure plus tard, ils sont en train de prendre leur petit déjeuner au salon. Il est 15 heures. Lui n'est pas encore bien réveillé. Elle lui fait des tartines de pain grillées avec du miel. Elle lui dit, il est tombé hier de la poche de ta veste un collier. Elle le sort de la poche de sa robe. Il ne pensait plus à ce collier. Il lui fait, ah oui, 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 j'allais le donner à la maîtresse de maison, j'ai trouvé dans la piscine. Elle lui fait, je ne crois pas qu'on leur rende un si joli collier. » Il va pour lui répondre, mais elle lui met dans la bouche une tartine et lui dit « Que tu le gardes, je m'en fiche, n'est pas à moi. Tu peux en faire ce que tu veux. » Ne lui dis rien. « Tiens, prends-le. Je le trouve trop vieux pour moi. » Il le prend et le met dans sa poche. Elle lui fait « Alors, mon bébé est un vilain garçon ? Tu as de la chance que ce soit moi. » Il se dit « Ça y est. Il est à sa merci. Elle me dit ça pour me le faire comprendre. » Il lui dit « De toute façon, je vais le rendre et personne ne peut être sûr que je n'allais pas le rendre. » Elle lui fait « Si tu l'as pris, c'est bien pour quelque chose. Alors, fais-en ce que tu veux et ce que tu as décidé. » Ou ses épaules, elle lui prépare une tartine. Il lui fait « Merci, j'ai plus faim. » Elle lui fait « Idiot, mange. » Moi aussi, je suis, disons, une méchante petite fille. Nous sommes semblables, tous les deux. Il la regarde surpris et se dit que c'est encore pire si elle joue le jeu du secret mutuel. Elle va l'avoir encore plus à sa merci parce qu'elle aura en plus elle voudra en plus aussi que je la dénonce. Elle lui fait « Mais je me débrouille mieux que toi. Le vol, ce n'est pas intéressant. Je fais mieux. Vivons dans une ville où il y a beaucoup d'actrices, de créateurs. Et ces gens sont très sensibles, dépressifs. Ils s'imaginent que certaines choses les aident à créer plus facilement. Vous me comprenez ? Mais je ne le vois pas. » Elle lui dit « Eh bien, je le procure à un bon prix, ce qu'ils ont besoin, cocaïne, opium, etc. Et ça rapporte bien. Il y a moins de risques que de voler. Comme toi avec ce bijou, comment peux-tu faire après pour le vendre ? C'est risqué. Moi, je ne veux pas ce que je vends. Je l'achète. » Il lui dit « Peut-être bien, mais tu risques aussi, parce que c'est interdit. » Elle lui fait « Ce serait difficile de me coincer, vu que presque tout le monde en prend. » Il lui demande « Et toi, tu en prends ?» Elle lui fait « Non, surtout pas. Si le vendeur est accro, il est perdu. Il vise ton stock pour lui. » Il demande « Pourquoi est-ce que vous me dites tout ça ?» Elle lui fait « Parce que vous êtes comme moi. Vous avez besoin d'avoir un compte en banque bien rempli et rapidement. Vous ne travaillez pas et vous vivez à grande échelle. » Il lui fait « Et alors ?» Elle lui dit « Si vous voulez, on s'associe tous les deux et nous gagnons gros. » Il lui dit « J'y connais rien, votre histoire. » Elle lui fait « Et en bijouterie ?» Elle sourit et lui dit « Nous sommes à égalité tous les deux. Toi et moi savons chacun sur l'autre beaucoup de choses. » Il se dit « La garce, elle m'a sa merci. » Bon, et alors ?» Elle lui fait « Je propose un petit travail d'équipe avec moi. » Il lui demande « Et qu'est-ce que j'aurai à faire ? Rien de bien méchant. Je te donne de la cam et tu la largues. Voilà. » Il lui dit « Et si je me fais pincer ?» Elle lui dit « Tu ne risques rien, tout le monde te connaît. La police n'aura même pas l'idée de regarder dans ta voiture. » Il lui dit « Tu oublies l'affaire d'Elisabeth ?» Elle lui fait « Oh, cette vieille, tout le monde l'a oubliée. Même la police. Alors tu es d'accord? Il se dit qu'il est obligé d'accepter. Il lui dit, bien, mais je vais là juste quelque temps. Elle lui dit, très bien, je vais te donner un paquet et tu vas le porter au numéro 15 de la 2e avenue. Tu demandes l'argent et tu donnes la cam. Il lui dit, je mets l'argent sur mon compte? Oui, après tu le mets sur le mien. Il lui dit, mais ça va paraître étrange, cet argent qui rentre dans mon compte. Elle lui dit, tu pourras dire que c'est des amis pour ton film. Tu sais, même les clients diront ceci aussi, si on leur pose cette question. Et puis tout le monde sait que tu cherches de l'argent pour un film. Termine ton petit déjeuner et tu commences. J'ai une livraison urgente. Une fois qu'il est fini de prendre son petit déjeuner, elle lui donne une pochette matelassée, une adresse et un bout de papier. Elle lui tend le tout et lui dit, fais attention, il y a tout de même pour de l'argent. Le prix est sur le bout de papier. Tu ne lui donnes la pochette que lorsqu'il t'a payé. Attention, pas de crédit. Tu as bien compris? Oui. N'oublie pas une chose, c'est que si tu es pris, on ne se connaît pas. Chacun pour soi. Allez, vas-y, après tu reviens. François, furieux, a pris sa voiture et fait sa première livraison qui se passe bien. La fille lui dit qu'elle l'appellera quand elle aura besoin de lui. Lui est furieux et se dit que ce n'est pas difficile et l'argent rentre. La fille lui donne 2 à 3 commandes par semaine. Ils n'ont plus de rapport privé. Juste les affaires. Au début, les clients sont surpris de voir le fameux Monsieur Bébé leur apporter leur drogue. Ils se disent qu'ils n'auraient jamais pensé à ça de lui. Le reste discret, et à part les clients, personne ne le sait. François est toujours invité à des soirées et il est traité comme le Monsieur Bébé. Comme il a de l'argent, il en demande moins à Tony et en même temps, il lui offre de petites choses, pas très chères pour ne pas éveiller les soupçons. Pour aider aussi, il l'aide un peu. Ce pauvre Eddie qui meurt d'amour pour lui, il l'invite de temps en temps au restaurant. Les jours passent. François se dit qu'il fait ça le temps que l'argent, les bijoux viennent sur son compte. Un soir, un comédien, un homme grand, mince, à 25 ans, blond, assez beau, il porte un costume beige. Et seul à une table. La salle du restaurant est grande, meublée et décorée 1900. Il y a du monde. Arrive vers lui un homme grand, fort, dans les 30 ans, cheveux châtains, costume gris. Gros homme lui dit, salut mon petit. Tu vas bien? Oui, quel pinot. Je peux m'asseoir un moment? Oui, bien sûr. Il s'assoit en face de mon petit. Donc tu lui demandes, tu veux boire quelque chose? Non, merci. Je viens de finir de manger. Monty lui demande, alors qu'est-ce que tu deviens ? Delpino lui dit, c'est à toi qu'il faut le demander. On n'a plus de nouvelles. Tu te passes de nos services ? C'est-à-dire que j'ai un autre fournisseur et qui me donne de la dope moins chère. Delpino lui demande, et qui est cette personne ? Je ne sais pas, c'est juste un numéro, mais celui qui me livre, tout le monde le connaît, c'est le français. Tu sais, celui qui était avec la vieille, le dénommé François Ducourt. Un nom comme ça. Monsieur Bébé, qui aurait cru qu'il fasse ça ? Delpino lui dit. C'est bien le français, le dealer ? Oui. Il te l'a fait à combien ? L'autre lui donne un prix. Delpino lui dit, merci pour le tuyau. Moi, je t'offre un prix d'ami. La moitié. Mais attention, tu ne dis rien. Compris ? Oui. Et Delpino le laisse. Monty se dit qu'il a dû faire une bêtise. Deux heures plus tard, Delpino est dans un bureau. D'une maison, en face de lui se trouve, assis dans un fauteuil, un homme grand, fort. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.